Oblique. 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 L'émission qui regarde le cinéma de travers.
Il existe une société secrète qui envahit peu à peu nos villes.
Ni des hommes, ni des animaux, mais quelque chose qui est entre les deux.
Bonjour chères auditrices, chers auditeurs, pour ce nouveau numéro d'Oblique sur Divergence. Alors ce n'est pas Manu au micro, c'est pas Manu le Monsieur Loyal, c'est Yann, votre serviteur. Hein, et on est trois dans le studio avec Victor. Salut. Bonjour. Victor et Justine.
Salut.
Bonjour, Justine. Voilà, donc au sommaire de cette Oblique, un focus sur un film particulier. Ce sera Mélanie Danier qui fera une petite création sur le film Variety de Beth Gordon. Une interview, Victor, c'est une interview...
De Thomas Roland et Jérôme Potier, donc les rédacteurs de la revue Prime Cut qui sort son numéro 2 le mois prochain ou ce mois-ci, je ne sais plus.
Voilà. Et un petit audio oblique avec un lien sur le film Variety, ce sera sur John Lurie. Mais tout de suite, l'agenda. No one knew better than McCain that they get him all the same and they made him pay the
price. Bonjour tout le monde. Alors au programme cette semaine, jeudi 23 juin à 19h30 à la salle Rabelais, What a Trip Festival organise une soirée ciné-voyage avec la projection du film Isoken de Thomas Jarret, Flavien Hilla et Vincent Lavrov. Cette production a lieu à l'occasion de la 6e édition du Festival international du film de voyage d'aventure de Montpellier. Ce film suit l'aventure de Thomas, Flavien et Vincent réalisant leur première expédition polaire, la traversée du Sarek, considéré comme le plus grand désert de glace d'Europe. Le samedi 25 juin à 21h, le festival de Nîmes, qui aura lieu du 17 juin au 24 juillet, organise pour la première fois en France le ciné-concert du film Gladiator de Ridley Scott. La projection plein air se passera dans les arènes de Nîmes. La musique, composée par Hans Zimmer et Lisa Gérard, sera interprétée par l'Orchestre National Montpellier-Occitanie. Et d'ailleurs, Lisa Gérard, la co-compositrice et interprète de la bande originale du film, sera également présente sur scène. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site web du festival de Nîmes. Dimanche 26 juin à 16h30 au cinéma Nestor Burma, l'association Les Enfants d'Hélène projettera le film « C'est magnifique » de Clovis Cornillac. Le film nous raconte l'histoire de Pierre Feuillebois, passionné d'abeilles et d'hibiscus, vivant coupé du monde avec ses parents. Après le décès de ces derniers, il se rend compte que ce n'étaient pas ses parents biologiques. Sa quête de réponse lui déclenchera d'intrigantes réactions, notamment la perte de ses couleurs jusqu'à en devenir invisible. Mardi 28 juin à 14h, la Maison pour tous Louis Feuillade organise un ciné-café autour du film « Les hommes au bord de la crise de nerfs » d'Audrey Dana. Cette comédie nous raconte l'histoire de 7 hommes de 17 à 70 ans que tout oppose sinon d'être au bord de la crise de nerfs. Ils se retrouvent embarqués dans une thérapie de groupe en pleine nature sauvage. Et si vous avez un petit creux après la séance, elle sera suivie d'un goûter offert. Et enfin, vendredi 1er juillet à 20h15, le cinéma Diagonale nous propose une séance unique du film Salam de Diams, Ouda Benyamina et Anne Cissé. Dans ce film documentaire, Mélanie Georgiade, alias Diams, revient après 10 ans de silence. Pour la première fois, face caméra, elle se confie sur la gloire, la psychiatrie, la quête de sens et sa conversion à l'islam. Elle y aborde la problématique de la santé mentale chez une grande artiste française et le choix délicat de changer de vie. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison.
Merci Justine. Et pour continuer le film, le focus sur le film. Alors le film mis un peu à l'honneur aujourd'hui, c'est pas du tout une nouveauté, c'est Variety, film de 1983 de la cinéaste Beth Gordon, américaine, hein, une sorte de, comment dire, représentante du cinéma indépendant US, et qui a fait un film, donc alors on en parle aujourd'hui parce qu'il est repassé, il a été, comment dire...
Il y a eu une ressortie.
Il y a une ressortie, ouais, on a pu le voir sur les écrans il y a quelques semaines, et dans ce film quand même très particulier, l'atmosphère très très particulière, Beth Gordon a su capter une atmosphère vraiment du New York New York du début des années 80 avec le versant un peu no wave et downtown. Et donc c'est vraiment un film à voir, et c'est Mélanie qui va nous proposer une petite une sorte de proposition sonore et poétique, comme elle avait déjà pu le faire avec le film de David Cronenberg, Les Crimes du Futur.
Variety, c'est le nom du cinéma où elle travaille, un peu par dépit, surtout par besoin. Elle, c'est Christine. Première scène, à la piscine. Sa silhouette, pudiquement cachée par le maillot une pièce dans les vaguelettes, comme un poisson dans l'eau. Des poissons qui envahissent l'écran par centaines, morts sur les étals. Dans ces scènes triviales de marché, le film semble insister. Il veut qu'on regarde. Il veut nous dire peut-être, ces poissons sont comme ces femmes qui participent à l'amusement des hommes. Innombrables, anonymes, au destin tragique. Variety, c'est le nom du cinéma où elle travaille. Et que ce cinéma passe des films porno, elle s'en fiche pas mal. Voir ça l'amuse, voir ça l'obsède. Elle accueille dans son être ces nouvelles sensations, cette nouvelle sexualité, cette nouvelle femme. Femme au miroir, femme à la cabine, femme à la vitre, elle est à la fois elle-même et une certaine image d'elle-même. Une image sur laquelle s'inscrivent les lueurs rouges néons des titres tendancieux et ridicules, des films et des shows privés. Dans ces salons, d'autres femmes, dans d'autres cabines. Et deux hommes, un qui l'obsède, l'autre qu'elle aimerait obséder un peu plus. L'homme mystérieux, c'est l'habitué. Il en faut toujours un. C'est son obsession à lui qui déclenche son obsession à elle. Obsession qui va jusqu'à la filature, muette, un silence rompu par la bande-son jazzy. Ce film noir ne connaîtra pas de dénouement. Peu importe. Du mystère, Christine se délecte, se réjouit, plus qu'elle n'essaye de le résoudre. Et un jour, comme chaque jour, quand elle prend sa pause, elle passe par la cabine du projectionniste pour regarder un peu, entendre les gémissements qui éveillent son esprit. Mais ce jour, c'est elle à l'écran. Elle est l'homme, l'habitué. Dans la chambre d'hôtel, début de scénario porno classique. Ça n'ira pas plus loin, mais il ne lui en faut pas plus. Un fantasme, c'est surtout imaginaire. L'autre, c'est le petit ami, le concret, avec ses yeux d'intellectuel, de désintéressé, de surpris. L'autre, c'est le lâche, l'insensible, le mutique, malgré les assauts de Christine pour lui faire l'amour par les mots. Érotisme de la parole imaginaire, fantasmagorique. De l'écran, elle détache des tailles sensuelles, fétichistes, qu'elle jette d'abord comme des pulsions qui nécessitent d'être expulsées pour ne pas mourir. Puis ces mots irrépressibles qui sortent de sa bouche se font sien, son plaisir s'allonge. D'abord, des blasons. La dentelle d'un bas noir, une bouche couleur cerise. Puis le mouvement. Comment on pince un téton, comment il se dresse. Enfin, comble du fantasme, l'interdit. C'est un tigre qu'elle convoque comme partenaire. Le tigre qui assaille et pénètre. Animal dangereux à la sensualité d'abord femelle, féminine. C'est les femmes qu'on appelle tigresses. Christine entre dans le sex shop. Regard d'homme intrigué et embarrassé. Elle, c'est le fantasme qui prend vie, la prédatrice, l'objet de désir, plus vraiment, surtout le sujet désirant.
Voilà, c'était Mélanie qui évoquait le film Variety de Bud Gordon. À noter dans ce film deux figures importantes du féminisme dans l'art. Il y a l'écrivaine Cathy Hacker, qui est scénariste du film, et Nan Goldin, photographe quand même connu, et dont l'univers finalement de Variety revient dans une série très connue de photos de Nan Goldin qui s'appelle The Ballad of Sexual Dependency, figure un peu iconique du New York un petit peu sulfureux à l'époque. Bon, il y a aussi John Lurie, mais ça c'est un petit peu pour plus tard.
No one knew better than McCain that they'd get him all the same, and they made him pay the price.
À Oblique, qu'on ne présente plus la revue Prime Cut, puisque c'était avec eux qu'on avait collaboré dès notre première séance organisée à Utopia. Quand même, pour rappel, pour ceux qui ne nous suivent pas chaque semaine, Prime Cut, c'est une revue consacrée à des cinéastes un petit peu mésestimés ou sous-estimés. La première était donc consacrée à Michael Winner, le cinéaste anglais le plus détesté de tous les temps, auteur entre autres donc de Injusticier dans la ville ou La Sentinelle des Maudits. Après la lecture de ce premier numéro, on est tous d'accord à Oblique, on est tous fans de Michael Winner, et surtout de Prime Cut, donc une revue à la fois érudite et accessible, qui se donne cette lourde tâche de réhabiliter des cinéastes sous-estimés. Donc le numéro 2 s'apprête à débarquer dans les kiosques, et on vous propose de partir à la rencontre de ces étranges exégètes qui souhaitent nous initier au plaisir obscur des filmographies les moins recommandables.
Jérôme Potier, Thomas Roland, pouvez-vous nous présenter le projet Prime Cut ?
Alors Prime Cut, c'est même plus un projet, c'est une réalité, puisque le numéro 1 est paru. C'est un MOOC, même si j'aime pas beaucoup ce terme, qui est une contraction de livres et magazines. On va dire que c'est une revue, nous on va employer le mot revue, qu'on a fondée à plusieurs, avec Thomas Roland qui est avec moi, qui est également rédacteur en chef et fondateur, avec l'éditeur aussi Christophe Cosins, qui est le patron de The Ecstasy of Film, avec Emmanuel Legagne, qui est également rédacteur en chef, et donc moi-même, Jérôme Potier, rédacteur en chef aussi de cette revue. Et cette revue, c'est tout simplement une revue consacrée aux cinéastes mal aimés, mésestimés, ou oubliés, ou tout du moins ce qu'on considère comme injustement oubliés, ou bien des parties de leur carrière, des parties des cinéastes, par exemple. Ou bien des cinéastes qui ont des... Tu couperas, Manu, tu te débrouilles après. Ou bien des cinéastes qui ont une partie de leur carrière qui est mal aimée, même si ce sont des cinéastes réputés. On va prendre, par exemple, la dernière partie de carrière de De Palma, par exemple, qu'on pourrait aborder dans la revue. Donc, en gros, une revue qui a pour but de défendre les cinéastes mésestimés, mal aimés.
Notamment ça, mais pas seulement aussi, parce que je trouve que, notamment via l'édition de DVD Blu-ray et beaucoup de magazines, se focalisent beaucoup sur ce qu'on appelle le cinéma de genre. Je trouve que c'est ce dont on parle beaucoup actuellement. Et je trouve qu'il y a plusieurs pans du cinéma mondial qui sont ignorés, mal connus, pour ne pas dire méprisé même. Je pense notamment à ce qui, moi, m'intéresse particulièrement, c'est le cinéma africain, qui est mal connu et qui est aussi mal distribué et qui demande à être mieux reconnu auprès du grand public, à mon avis. L'idée, c'est donc de parler aussi un peu de réalisateurs dont on parle peu, parce que quand on regarde certains magazines, c'est toujours les mêmes dont on parle, John Carpenter, Dario Argento, etc. Je pense qu'on a fait quand même le tour de ces cinéastes, de leurs œuvres. Et il y a d'autres cinéastes, même plus anciens, je pense notamment Frank Borzaghi, par exemple, qui est un cinéaste très intéressant et qui est peu édité aussi. Bon, c'est aussi le problème. Parler de réalisateurs dont les films sont peu édités, c'est aussi un problème. Donc, c'est aussi l'idée de départ de cette revue, d'évoquer des films ou des cinéastes ou des cinématographies un peu d'ailleurs, méconnues, voire peu plébiscitées par le public. Et c'est un défi qui n'est pas forcément facile à relever, à faire accepter par le grand public.
Je rajouterais aussi que c'est une revue axée sur le cinéma de patrimoine, hein, puisque c'est édité aussi par un éditeur vidéo, The Ecstasy of Film, qui édite aussi de la vidéo, fait du bouquin et de la vidéo, qui est un éditeur spécialisé dans le cinéma de patrimoine.
Comment l'équipe rédactionnelle de Prime Cut s'est-elle constituée ?
L'équipe rédactionnelle s'est constituée de manière assez classique, c'est-à-dire qu'une fois que le projet de la revue était bien délimité, si j'ai envie de dire, et que les rubriques étaient bien définies, que le contenu de la revue était bien collectivement en tout cas bien arrêté, on a contacté divers journalistes, divers critiques de cinéma dont on aime la plume, que l'on aime lire, et petit à petit, beaucoup nous ont répondu présents, beaucoup nous ont rejoints, et on est très contents aujourd'hui de compter une équipe très très large qui va des gens qui viennent des Cahiers du cinéma, des gens qui viennent du Fanzina, des gens qui sont aussi dans les métiers du cinéma, hein, comme par exemple des gens qui travaillent dans des sélections, dans des grands festivals, tout ça. Enfin, on est très très content d'avoir une équipe aussi large. Il y a aussi des universitaires, tout ça. Voilà un peu comment l'équipe s'est constituée, équipe que l'on voulait très ouverte, très large et d'horizons divers.
En quoi Yves Boisset, cinéaste mis à l'honneur dans le prochain Prime Cut, vous paraît-il oublié ou sous-estimé ?
Yves Boisset, aujourd'hui, il a rencontré des grands succès publics avec ses films, hein, il a même eu quelques succès critiques aussi, mais Yves Boisset a toujours été par contre caricaturé comme un cinéaste à gros sabots, et ça c'est quelque chose qu'on ne voulait pas entendre dans la revue. On trouve que c'est un cinéaste plus subtil qu'il n'y paraît, on trouve que c'est un cinéaste, alors tout le monde connaît Dupont-Lajoie par exemple, mais c'est un cinéaste aussi qui a fait alors des films peut-être un peu oubliés aujourd'hui, mais qui ont vraiment marqué leur époque, comme Un Condé, sur les violences policières, un autre film oublié, Le Sceau de l'Ange par exemple, L'Attentat sur l'affaire Ben Barka, un très beau film beaucoup plus récent de 1981, c'est Allons Enfants par exemple, qui est un grand film pacifiste en plus. Donc vraiment un cinéaste qu'il est important de réhabiliter, dans le sens où c'est un cinéaste qui, moi, me paraît beaucoup trop caricaturé, et en fait il y a très peu d'écrits qui décortiquent vraiment le travail de Yves Boisset avec sérieux.
C'est aussi une manière de parler d'un cinéma qui, en France, a presque disparu, c'est-à-dire un cinéma engagé qui parlait de faits de société quasiment en direct, hein, comme l'affaire Ben Barka ou le racisme avec Dupont-Lajoie. Et c'est un cinéma qui a disparu. C'est aussi une manière de rappeler que ce cinéma a existé et de le remettre sur le devant de la scène.
Quels sont les thèmes d'Yves Boisset abordés dans le MOOC ?
Il y a beaucoup de choses abordées autour de Boisset. Il va y avoir le thème de la censure, avec une rencontre avec Sébastien Lecoq, qui est un spécialiste du sujet, qui a travaillé dans la revue Darkness. Il va y avoir aussi la musique dans ses films, puisqu'on a rencontré Philippe Sard. Il va y avoir également l'influence du roman noir sur son travail. Nous, on a rencontré aussi François Guérif, éditeur, grand spécialiste du roman noir. La question de la filiation aussi, qu'est-ce que transmet le cinéma d'Yves Boisset ? Est-ce qu'il a des héritiers aujourd'hui ? Nous, on considère Lucas Bellevaux un peu comme un héritier d'Yves Boisset. Donc, on a été aussi à la rencontre de Lucas Bellevaux, qui est l'acteur principal d'Allons Enfants. Et puis après, on a développé plein de avec tous nos rédacteurs, de Pierre Audebert à Christophe Petit, en passant par Sidney Cabot, Sambosi, Michel Tabal, Gérald Duchossoir, Romain Van Destichel, Christophe Chavdia. On a été aussi avec Johan Chanoir, qui a travaillé sur le côté historique, par exemple. On a Guilhem Sandras aussi, qui a travaillé sur les dossiers, Dominique Legrand. Enfin, on a du monde, surtout aussi Franck Laffont, Roberto Curti, eux qui sont pas mal comment dire, centrée sur les films non réalisés, les projets non aboutis de Boissé. Et on va dire que tous ces auteurs-là ont abordé différentes thématiques qui vont des combats d'Yves Boissé, de l'influence du cinéma américain sur son travail, de son travail de critique de cinéma. Je ne peux pas tout vous les citer, il faut quand même qu'on laisse découvrir des choses à nos lecteurs, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense aussi beaucoup de choses qui vont étonner les gens. Qui sait, par exemple, qu'Yves Boissé a réalisé un giallo, voilà, avec Ingrid Chauvin. Voilà, ça c'est pour le côté anecdotique. Mais voilà, il y a plein de choses dans la revue, et il y a plein de sensibilités, de thèmes liés à son cinéma et aussi de sujets autour de son cinéma qui sont abordés.
Comment envisagez-vous l'avenir de la revue? Et quel est le prochain cinéaste abordé dans la revue Prime Cut?
L'avenir de la revue va déjà passer par essayer de fidéliser un lectorat. Là, on se lance. C'est un projet qui se lance dans un contexte difficile, difficile pour la presse, difficile pour les revues. Donc, l'avenir de la revue va passer aussi dans le fait qu'on soit plus de lecteurs, plus d'abonnés, plus... c'est ça aussi l'avenir de la revue. C'est comme ça aussi qu'on peut y penser. Puis après, l'avenir de la revue dans son contenu, eh bien, pour l'instant, on en est encore au début. Donc on tâtonne. Hein. On a une revue avec un contenu bien arrêté, une ligne directrice forte. Mais après, on va faire évoluer certaines choses. On ne peut pas en parler aujourd'hui parce qu'un seul numéro de sortie et un numéro 2 qui arrive là dans les jours qui viennent, c'est un peu juste. On fera peut-être le bilan au bout de 2 ans d'existence de la revue pour dire quelle orientation on souhaite lui donner plus précisément. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on a déjà... on a déjà des orientations à venir qui font que ça, on peut l'annoncer. Hein. On va à chaque fois essayer de varier les cinéastes de tous les continents pour essayer d'être le plus exhaustif possible dans notre chronique des cinéastes mésestimés, mal aimés, méconnus.
Bon, GG vient un peu résumer ce que je voulais dire aussi. Hein. Bien sûr, on a GG. D'autres idées de nouvelles rubriques.
Voilà, c'était Jérôme Potier et Thomas Roland. Interview exclusive pour Prime Cut, hein, enfin pour Oblique, sur la revue Prime Cut. Et on la trouve où, Victor, cette revue?
Mais quelle question pertinente et spontanée.
Il faut savoir où on la trouve.
C'est donc sur le site de Ecstasy of Film. Vous pouvez également vous le procurer à Planète Interdite et la librairie Le Grain des Mots à Montpellier. Hein.
Voilà. Et ça sort courant juillet. On parlait de Variety de Beth Gordon, et ben la musique de Variety, c'est quelqu'un d'important dans ces années-là, c'est John Lurie, et on va évoquer quelques musiques de films de John Lurie des années 80. Voilà, donc ça c'était un extrait de la bande originale du film Variety, donc musique de John Lurie qui est saxophoniste, compositeur et aussi acteur, on va l'évoquer un petit peu par la suite, et on vient d'entendre ce qui est en fait la première école de John Lurie, c'est le jazz, un jazz hérité du classicisme, hein, on entend quand même les sons qui viennent directement d'Ellington, là. Il y a aussi l'expressionnisme un petit peu plus tardif de Mingus ou d'Eric Dolphy. Et les déviances, enfin, appelons ça déviance, hein, plus no wave et même punk dans tout un tas de tendances avec le jazz qui vont donner un groupe important dans les années 80, c'est les Lounge Lizards. Dans les Lounge Lizards, un collectif dans lequel on va pouvoir entendre des musiciens qui vont devenir plus connus par la suite, comme Mark Ribot, comme Arthur Lindsay, et aussi Curtis Fox ou Anton Fear. Voilà, donc un groupe très très intéressant et cette musique là qu'on vient d'entendre, Variety, a été édité édité sur disque à la suite du film de Ben Gordon. C'est paru sur le label Normal, dans la série Mad to Measure. Il y avait une face, alors je dis une face parce que je parle pour le 33 tours, hein, dédiée au film de Ben Gordon, et une autre face pour un film très important d'un cinéaste qui va compter le plus pour John Lurie, en tant qu'acteur, mais aussi évidemment compositeur, c'est Jim Jarmusch. Et le film, c'est Down Below. Et dans Down Below, film de 1986, on se souviendra toujours d'une scène vraiment truculente, que ça se passe en prison, une sorte de parade chorale où les trois acteurs qui sont Roberto Benigni, Tom Waits et John Lurie vont donner un peu de la voix pour une sorte de chorale un peu excentrique. Et voilà, on en écoute un bout. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Sorte de comptine hein, carcérale chantée par hurlée par Roberto Benigni, John Lurie et Tom Waits dans Down Below de Jim Jarmusch. Plutôt traduite de façon assez de façon sympathique hein, la version française c'est je gueule tu gueules et on gueule tous pour un gueuleton. Donc ça vient du cinéma de Jarmusch qui est typique à l'époque et ça a continué par la suite entre une forme de nonchalance un peu onirique et une poésie plus réaliste. Ce cinéma était le terrain d'expression pour l'acteur aussi, pour la présence physique de John Lurie, cette espèce de grand bonhomme un peu dégingandé, un peu paumé, hein, qui va d'ailleurs traverser d'autres cinématographies, je pense notamment à Wim Wenders dans Paris, Texas. Donc la présence physique de l'acteur et puis bien sûr la musique du compositeur qui sait aussi quitter son milieu naturel, celui du jazz, celui des lounge lizards, pour s'aventurer ailleurs et notamment dans l'écriture un peu plus classique, Pourquoi tu raccordes. Et ça, c'est dans le deuxième film de Jarmusch, on revient deux ans auparavant, en 1984, c'est Strangers in Paradise. Alors, une écriture Pourquoi tu raccordes, un peu classique, mais on est quand même les pieds pas mal dans le blues, hein, on peut l'entendre, c'est quand même cette mythologie très américaine. Et on va y revenir là, avec un troisième extrait de la bande originale du film, cette fois-ci Mystery Train, et là on est carrément dans le blues. Thank you. Voilà pour présenter les musiques de John Lurie. Plus tard, il y en aura d'autres. Il aura fait d'autres musiques de films, notamment Broken Boogie de Paul Auster et Wayne Wang en 95, ou encore Animal Factory de Steve Buscemi. Mais c'est vraiment dans les années 80 que sa personnalité a éclos le plus fortement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va juste entendre pour accompagner cette fin une petite chanson d'Elvis, parce qu'il y a le film Elvis de Baz Luhrmann qui sort. Alors Baz Luhrmann, c'est pas toujours terrible, mais les chansons d'Elvis, ça le fait toujours quand même. Donc avec pour Oblique aujourd'hui, il y avait Victor et Justine. Merci Victor, merci Justine.
Merci.
Merci Adeline à la technique. Merci Divergence. Et puis voilà, allez au cinéma. À la semaine prochaine pour le dernier numéro de la saison d'Oblique.
À la semaine prochaine.
Bisous, bisous.